Bonjour à toutes et à tous. Profitez aussi un petit peu du temps que nous allons passer ensemble juste après pour l'apéritif et puis pour notre réunion plénière en début d'après-midi et juste après l'apéro en fait. Nous sommes dans Pierre. On continue la première épître de Pierre. Aujourd'hui, on va faire suite à ce que nous a présenté Luc il y a 15 jours. Et nous allons découvrir les versets 13 à 25 du premier chapitre de la première épître de Pierre. J'ai lu plusieurs fois ce texte. Ce ne sont pas des textes faciles, mais quand même il y a des choses qui se raccrochent les unes aux autres. Tu pourrais me mettre juste la photo pour que j'ai essayé de donner un titre à diviser le texte en trois sections, de donner un titre à chaque section. Vous voyez ? Premier titre, c'est vivre une grâce absolue. Le deuxième, c'est estimer l'objet de notre foi à sa juste valeur. Et troisièmement, engager sa vie par l'évangile. Versets 13 à 17. Bon, on les lit. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre, ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous a été apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, aussi, vous aussi, devenez saint dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. On passe au deuxième point, deuxième section, verset 18. Vous savez, en effet, que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de vos pères, mais par le sang précieux, de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Vraiment la troisième section. Donc, engager sa vie par l'évangile. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole et celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Je crois que Pierre est en train de parler d'équilibre spirituel pour avoir un équilibre de vie. En fait, l'équilibre spirituel devrait être une réalité pour chacun de nous, parce que si on n'en comprend pas les principes, ou si on les comprend que de manière superficielle, finalement, nous découvrirons très vite qu'il ne résiste pas, que notre foi ne résiste pas en tout cas aux tests du monde, aux tests des épreuves de la vie et à la fréquence des découragements. Si nous n'avons pas une notion équilibrée, saine, équilibrée, si nous n'avons pas de l'Évangile, de la beauté de l'Évangile, de ce que Dieu a fait pour nous, de ce qu'il est, ben, automatiquement, nous ne résisterons pas aux épreuves de la vie. Premièrement, vivre une grâce absolue. C'est ce que Pierre soulève au verset 13. C'est le premier aspect, la base de toute notre marche chrétienne. Il dit, c'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre, et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Quand on lit ça, au premier abord, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'il est en train de dire? On dirait qu'il dit beaucoup de choses en même temps. Le texte dit littéralement « Saignez donc les reins de votre esprit », c'est-à-dire « Soyez dans l'état d'esprit d'un homme dont les reins sont sains ». C-E-I-N-T-S. Sont sains. Je ne sais pas si vous avez déjà porté un pantalon trop large, hein, pour vous, sans ceinture. Tant qu'on reste assis, tout va bien. Oui, vous avez un pantalon trop large, pas de ceinture, vous restez assis, aucun problème. Par contre, si vous vous levez, vous êtes obligé de vous lever en tenant votre pantalon. Moi, j'aime les ceintures. J'enlève ma ceinture. Ceinture un peu particulière. Dans une ceinture, il y a des trous. Alors, je ne sais pas, l'exemple, il vaut ce qu'il vaut, mais je dirais que le premier trou, c'est la conscience de notre condition. Le deuxième trou, c'est être conscient de la splendeur de notre salut. Je vais mettre au deuxième trou, c'est spécial comme ceinture. Hein. Donc, splendeur de notre salut. Le troisième trou, c'est conscient de l'efficacité de l'œuvre de Christ à la croix. Être conscient que ce qu'il a fait, ça tient la route. On est dans le troisième trou. Et le quatrième trou, être conscient de la présence du Saint-Esprit en nous. Parce que sans ça, c'est difficile de trouver l'équilibre. Je rappelle mes trous. J'ai fait j'ai interchangé le deuxième et le troisième trou. Normalement, c'est premier trou, conscient de notre condition. Deuxième trou, conscient de l'efficacité de l'œuvre de Christ à la croix. Troisième trou, conscient de la splendeur de notre salut. Et quatrième trou, conscient de la présence de l'Esprit Saint en nous. Et ça ne dépend pas de la grosseur de l'individu. oui. Serrer notre ceinture ou affermir notre pensée nous rappelle que la foi met en marche celui ou celle qui est touché par la foi, qui est touché par l'Évangile. Il se met en marche. En fait, ça nous appelle à prendre rang. Nous sommes tous en rang ce matin, parmi les voyageurs, qui sont en route vers le royaume de Dieu. Nous sommes tous en train d'aller vers ce royaume. D'un instant à l'autre, ce royaume peut surgir. Nous sommes en route, mais en même temps, nous attendons qu'il se manifeste. Il s'est manifesté, puisque Jésus l'a dit, hein, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais nous attendons son retour. Et nous sommes en marche vers lui. Vers lui. Pour vivre une grâce absolue, notre pensée doit être affermie. Vivre une grâce absolue. Alors pourquoi j'ai mis ce titre ? C'est une grâce telle qu'elle est rarement présentée dans la Bible, telle que Pierre nous la présente. Il y a plusieurs commentateurs qui interprètent la grâce de ce passage comme étant la grâce qui nous a été accordée. Alors c'est vrai qu'au verset 10, il est dit les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée. Mais le verset parle de la grâce qui nous sera apportée. Nous sommes graciés, mais nous avons besoin d'être conscients de la grâce qu'il va nous être apportée au moment où nous allons arriver devant le royaume de Dieu, où lui va nous rejoindre. Ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. On a besoin d'avoir une vision juste de cette grâce qui nous est réservée. Encore plus, si nous sommes conscients que celui qui nous a appelés est saint et que nous aussi nous devons devenir saints dans toute notre conduite. Alors j'ai une question. Question que je me pose. Est-ce que je suis conscient de la grâce qui me sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ ? Et est-ce que je connais, écoutez bien cette question, la perfection au travers de mes échecs? Parce que la grâce, c'est ça. Est-ce que tu connais la perfection de la grâce au travers de tes échecs? Je vais m'expliquer. Pierre est en train de nous dire que nous devons viser la perfection tout en apprenant à gérer nos manquements, nos échecs. Être parfait, c'est l'objectif que nous nous fixons en tant que chrétiens, à savoir être conduit par l'Esprit Saint, n'offenser personne, essayer de n'offenser personne, avoir un maximum d'amour, faire toutes choses avec droiture, glorifier Dieu dans chacun de nos actes. Ça, c'est la perfection spirituelle et c'est vers elle que nous tendons. Il y a du boulot, peut-être surtout chez moi. Mais c'est ce à quoi nous tendons, cette perfection spirituelle. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre, tout en étant conscient du Dieu auquel vous croyez, tout en étant conscient de ce qu'est l'Évangile, tout en étant conscient de la beauté du salut, les trous des ceintures, en affermissant nos reins. Ce Dieu saint, juste, qui juge selon les œuvres de chacun, ce Dieu qui juge en voyant les cœurs, ce Dieu qu'on ne mène pas en bateau, ce Dieu qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres. On est loin des débats de DSK. Parce que le gars lambda dans la rue, dans le même cas que lui, on lui poserait même pas la question, est-ce que tu sais si c'était des libertines ou des prostituées? À lui, on lui poserait pas la question, ça serait déjà clair et net. Mais parce que c'est monsieur, deux, on pose la question. Et il dit non, je savais pas. À d'autres, hein. Bref, je suis pas là pour refaire le procès. Mais voilà que chacun de nous doit apprendre à accepter aussi cet échec, et particulièrement ses propres échecs. Ta marche dans ta vie chrétienne, tu dois apprendre à vivre avec ces échecs-là, parfois. Non ? Il n'y a pas des choses récurrentes dans ta vie ? Il n'y a pas des choses que tu as du mal à te débarrasser ? Il n'y a pas des choses où tu te dis, là je suis pas dans le coup là. Là ça va pas là. Et même si tu te le dis, ça revient. Comment ça se fait ? Tu dois apprendre à marcher avec ça. Vous allez comprendre ce que je veux dire par apprendre à marcher avec ça. Il n'est pas question de les limiter. Il n'est pas question de les ignorer. Il n'est pas question de les minimiser. Mais il nous faut quand même avoir une parfaite espérance en la grâce qui nous sera apportée. Parce que nous avons besoin de cette grâce qui va nous être apportée. Parce que s'il n'y a pas une grâce qui va nous être apportée, on est cuit. Je suis cuit. Alors, je cite Georges Verwer, fondateur d'Opération Mobilisation, dans son livre « Naviguer par la grâce ». Je le cite. « Les chrétiens, souvent, s'imposent de si hautes exigences qu'ils ne savent plus quoi faire lorsqu'ils ratent la cible. Leur frustration est telle qu'ils se replient dans l'apitoiement sur soi et il leur faut du temps avant de pouvoir repartir depuis le début. Ils se repentent et croient que Dieu leur a pardonné. Néanmoins, ils vivent une sorte de purgatoire, comme s'il leur fallait se punir émotionnellement et mentalement pendant un certain temps avant de pouvoir revenir au même niveau spirituel qu'avant. D'autres chrétiens vont vivre toute la journée dans la frustration. Ils pensent que le diable va leur sauter dessus méchamment parce qu'ils n'ont pas pu prendre aux premières heures du jour un moment pour leur culte personnel. Or, la Bible ne mentionne jamais ce temps particulier. De toute façon, le diable va nous attaquer, avec ou sans culte personnel. Je le répète une fois de plus, visons la perfection, mais ne nous rendons pas malades pour autant. Fin de citation. Waouh, ça déménage, hein ? Ça déménage, hein ? Nous qui plaçons notre vie spirituelle et notre petite vie chrétienne sous couvert de mon culte personnel, ma lecture de la Bible, ma prière, etc., tous les jours. Là, on est loin du compte, hein, mais on va continuer. Parmi les nombreux sentiments qui entravent notre croissance spirituelle, le plus important est certainement le sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité entrave notre croissance spirituelle. Nous devons nous méfier du légalisme. La vie chrétienne doit comporter des règles. Mais nous devons nous méfier des « fais ceci » ou « ne fais pas cela ». Grandir spirituellement ne s'appuie pas sur des règles, ni sur des interdits. Pour grandir spirituellement, il faut être en communion avec Dieu, se nourrir de sa parole et s'appuyer sur ses promesses. Il y a un des versets, peut-être à apprendre par cœur, après Jean 3,16, et certainement celui-ci. « Si nous confessons nos péchés, il, Dieu, est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1,9. Moi, c'est peut-être un des premiers versets que j'ai appris. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la seule raison pour laquelle je suis encore là aujourd'hui. Ce verset, c'est peut-être la seule raison pour laquelle je suis encore là devant vous ce matin. En 25 ans de vie chrétienne, j'ai échoué tellement de fois. J'ai vécu tellement d'échecs. Combien de fois je me suis manqué? Combien de fois j'ai loupé la cible? Louons Dieu pour la culpabilité. Louons-le, il la faut. Elle est nécessaire, mais elle doit nous amener à nous repentir immédiatement et à retourner à la croix vers la grâce de Dieu qui pardonne et qui nous aime tellement. C'est là que notre culpabilité est lavée, à la croix. Pas parce que demain, tu as décidé de lire deux fois plus ta Bible que hier. Vous comprenez ce que je veux dire? Vivre une grâce absolue. Est-ce que tu es pur aujourd'hui? Drôle de question, là, d'un coup comme ça, paf! Est-ce que tu es pur aujourd'hui? Y a-t-il dans ta vie un péché que tu n'as pas confessé? Ou bien, est-ce que tu doutes de la grâce de Dieu? Ce matin, je te pose cette question. Je me la pose à moi aussi. Maintenant, tu peux te reposer les mêmes questions que tout à l'heure. Penses-tu qu'il soit possible de vivre une grâce absolue? Es-tu conscient de la grâce qui te sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ? Connais-tu la perfection au travers de tes échecs? Bien sûr, soyons conscients que celui qui nous appelle est saint. Que nous aussi, nous devons devenir saints dans toute notre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Mais aussi, ayons une parfaite espérance en la grâce qui nous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Un équilibre pas facile à trouver, j'avoue, pas facile à vivre. Mais afin de ne pas tomber soit dans le piège de la minimisation de la perfection de Dieu, à laquelle nous sommes tous censés tendre, soit dans l'abus de la grâce qui nous est accordée jour après jour, Pierre nous donne le remède à ces deux pièges. Tomber soit dans l'un, tomber soit dans l'autre, il nous donne les remèdes. Et on arrive aux deux autres points. Estimer l'objet de notre foi à sa juste valeur. Parce que si nous ne l'estimons pas vraiment à sa juste valeur, nous allons tomber soit dans l'abus de la grâce, soit dans une culpabilité qui est forcenée, je dirais, une culpabilité qui nous accable. Soit dans la minimisation de la perfection de Dieu à laquelle nous tendons, soit dans l'abus de la grâce sans laquelle toute marche avec Christ devient impossible. Versets 18 à 21 sont de toute beauté. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Ça, c'est la description de la valeur de notre foi. Oui, j'ai mis un diamant, des lingots d'or. Là, on ne le voit pas bien, mais il y a la croix dans cette goutte qui représente une goutte de sang. Pierre est en train de nous présenter le salut par l'image du rachat d'un esclave. Ça nous rappelle que ce rachat est hors de prix. Hors de prix. Tu ne peux pas te le payer. Or, il n'est pas à notre portée. Ce n'est pas possible. Et que ce qui nous arrive ne peut pas dépendre de nous. Il nous est impossible de nous racheter nous-mêmes à Satan. Ce n'est pas possible. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Vous savez, dans l'Antiquité comme de nos jours, je pense, le statut d'esclave n'est pas enviable. Aucun droit. Que des obligations, aucun droit. Il est l'objet de celui à qui il appartient. Il est son objet, il est même l'objet de ses caprices. Le maître a absolument tous les droits sur son esclave. Le rachat d'un esclave à Rome était un vrai privilège. Pierre nous demande de ne pas nous replacer volontairement sous l'ancien esclavage de nos passions. Il nous dit, faites gaffe à ça. Ne vous remettez pas sous cet ancien esclavage. Estimez l'objet de notre foi à sa juste valeur, tient à un seul mot, rachat. Nous avons été rachetés. Pierre, le juif, il fait référence à ce rachat. Il associe au rituel de la Pâque, le Christ et cet agneau pascal, sans défaut, sans tache, immolé le soir, où les linteaux des portes étaient badigeonnés de sang. Pierre pense à ça. Comme disait Yann la semaine dernière, Pierre, il a vécu tout ça dans toute son enfance. Il ne fait pas de la théologie, il fait du témoignage. Pensez aux mensonges. Pensez à l'orgueil. Pensez aux meurtres. Pensez à notre monde qui se détruit peu à peu. Pensez aux abus de toutes sortes, sexuels, spirituels, au harcèlement à l'école, on en parlait il y a peu de temps, au génocide, aux tortures, à tout ce qui se passe près de chez nous. Maintenant, écoutez à nouveau les paroles de Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Toute notre histoire, elle est là. Toute l'histoire d'humanité, elle est focalisée là. Estimez la valeur de l'objet de notre foi. Pierre n'a pas besoin d'en rajouter. D'ailleurs, il écrit que ce n'est pas du péché que les croyants ont été libérés, mais de leur vaine manière de vivre, héritée de leur père. Tout comme au verset 23, Pierre n'attribue pas la régénération par le Saint-Esprit, mais par cette semence incorruptible, c'est-à-dire la parole vivante et permanente de Dieu. C'est étonnant quand même. C'est quand même étonnant. Il attribue la régénération, il ne parle pas du Saint-Esprit, il dit, non, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Et vous allez voir pourquoi. Au troisième point, engager sa vie par l'Évangile. Verset 22. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Les chefs d'État se succèdent, les idéologies aussi. Les philosophes sont enterrés, les uns après les autres. Le cimetière du Père Lachaise à Paris s'agrandit. Les gloires se succèdent les unes aux autres. Le temps passe, papy et mamie sont passés, nous passons aussi. Nous passons aussi. Que reste-t-il à part des souvenirs? Des tableaux? Des photos? Des vidéos? Des bijoux? Des cailloux? Toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Pierre est en train de citer Ésaïe. Et avant de terminer par l'annonce de l'Évangile, Pierre nous dit que rien, absolument rien, n'est plus honorable que l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère. Je ne sais pas si on arrive à réaliser ça. Pourquoi j'obéis à la vérité du Seigneur ? Pour gagner son approbation ? Pour lui plaire ? Pour gagner le ciel ? Non. On a vu que c'est par pure grâce. Pour gagner son amour ? Mais non. Il t'aime malgré tout. Pour être un bon chrétien ? Pour le glorifier ? Est-ce qu'il a besoin de toi pour le glorifier ? Il ne peut pas se glorifier lui-même. Il a besoin de nous. Ah bon ? Il est Dieu. Tout-puissant. Et il a besoin de moi ? Il est glorieux avec ou sans moi. C'est clair. Obéir au Seigneur en vue d'un amour fraternel sincère, un amour ardent avec tout notre cœur. C'est la parole vivante et permanente de Dieu qui crée en nous cet amour, un amour ardent qui vient du fond de notre cœur. J'avoue, je suis souvent loin du compte. Même si on se dit chrétien évangélique, cet amour soi-disant fraternel est souvent de façade, hypocrite, sous condition, je dirais presque associatif, vous savez, style club canin. Je dis ça parce que j'étais dans un club canin jusqu'à maintenant, puisque j'y suis encore inscrit, et je suis parti 3 semaines au mois d'octobre, comme vous le savez, et pourtant j'étais au club tout le temps, hein, toutes les semaines, hein, mais je n'ai pas reçu ni un coup de fil, ni un SMS, pour me dire, ça va, t'es revenu. Tu vas au club, c'est bien, tu vas pas. Ben, on est souvent très loin d'un amour ardent, passionné, qui brûle, qui n'est pas teinté d'orgueil comparatif. La gloire, c'est celle qui sèche. Et que Pierre le souligne aussi, toute gloriole de ce monde passe comme l'herbe qui sèche. Et la beauté de sa fleur tombe un jour ou l'autre. C'est intéressant que Pierre écrive ces choses-là, n'est-ce pas ? Lui qui aimait bien se comparer avec eux, avec ses collègues. Mais il dit ces choses-là, c'est lui qui est en train de les dire. Les 3 mêmes tues de Jésus ont vraisemblablement laissé des traces dans le cœur de Pierre. Dans le cœur de Pierre. Excusez-moi. Mais, en fait, il parle de régénération. Il dit que la régénération, voilà le motif d'un vrai amour fraternel. Nous avons été régénérés par le Saint-Esprit et c'est ça qui devrait être le motif, qui devrait nous engager notre vie par l'Évangile, dans cet amour. Le moyen de ce renouvellement n'est pas terrestre, c'est une semence incorruptible. Le Saint-Esprit crée la vie dans notre âme. Pierre est en train de nous dire que si nous ne vivons pas cet amour, c'est que nous sommes en grand danger. C'est que cette parole de Dieu, vivante, permanente, n'est peut-être pas une réalité dans nos vies. Peut-être une religion. Pierre connaissait très bien les religions. Peut-être une philosophie. Pierre connaissait certainement les philosophies grecques. Peut-être une connaissance intellectuelle. Pierre était quand même un proche de Jésus. Il y a une action surnaturelle de cette parole vivante et permanente qui devient une réalité dans notre vie. Autrement, à quoi ça sert ? Mais c'est pour ça que je disais qu'il ne dit pas que c'est le Saint-Esprit qui nous a régénérés. C'est la parole vivante et permanente de Dieu. Mais pourquoi ? Parce que c'est la parole de Dieu qui crée le monde. Notre monde a été créé par la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui nous convertit, qui nous fait naître de nouveau. C'est cette parole de Dieu qui a donné naissance à Jésus par l'intermédiaire de Marie. Sans cette parole de Dieu, c'est cette parole de Dieu qui accomplit les promesses de Dieu que nous avons vues dans les premiers versets. Ces anges qui désirent plonger leur regard, ces prophètes qui ont cherché à voir ce qui nous était destiné, cette parole de Dieu qui accomplit les promesses par des actes. Cette parole de Dieu qui nous a fait naître de nouveau. Et cette parole de Dieu ne serait pas capable de créer en nous l'amour. Voilà ce que Pierre est en train de nous dire. Cette parole de Dieu qui a créé le monde ne serait pas capable de créer en nous de l'amour fraternel, sincère. Mais si ce n'est pas le cas, on perd notre temps. C'est cette parole qui nous a été annoncée à laquelle nous avons répondu. C'est cette parole que nous appelons bonne nouvelle de l'Évangile. C'est aussi cette parole que nous annonçons. Engager sa vie par l'Évangile. Pas uniquement pour l'Évangile, mais par d'abord. Cet Évangile qui transforme ta vie, qui transforme ma vie. Et malgré les échecs, malgré les luttes, malgré les loupés, être conscient de ce qu'il a fait pour nous, être conscient de l'objet de notre foi, sa juste valeur, ce qu'il représente, à savoir qu'il intercède pour les coupables. Il est devant le trône de Dieu, le Seigneur, et il intercède pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit abuser de la grâce, mais sachons nous relever pour engager notre vie par l'Évangile. Sachons nous approcher de la croix et lui dire « Écoute, je te demande pardon. » Que Dieu bénisse sa parole. On va être dans le chapitre 2, où il est question vraiment de tout ce qu'on vient de dire, parce qu'il part de l'amour fraternel sincère, mais ça représente quoi? Et là, Pierre va continuer en parlant de méchanceté, en parlant d'hypocrisie, d'envie, de médisance. Et il va mettre encore la parole de Dieu au centre, cette parole qui va nous transformer, cette parole qui va nous libérer aussi. Parce que nous sommes des êtres humains, parce que le péché est attaché à nous, parce que la chair est faible, même si dans nos têtes on est bien disposé. Que Dieu bénisse sa parole, je vais prier. Seigneur, merci pour la Bible, merci pour Pierre, merci pour cette lettre. Merci pour ces paroles, merci pour ces phrases qui nous rappellent que tu es Dieu, tu es celui qui crée en nous. C'est vrai, se vouloir et se faire. Tu es aussi celui qui nous encourage à nous aimer les uns les autres. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien, ou pas grand-chose. Merci de nous rappeler au travers de cette épître qui a été écrite à une période difficile de l'Église, où les chrétiens avaient besoin d'être encouragés. Merci de nous rappeler les éléments essentiels de notre vie avec toi. Prendre conscience de la grâce qui nous a été accordée, parce que tu as fait pour nous à la croix, mais qui nous sera aussi accordée lors de ton retour. Seigneur, cette grâce ne devrait pas nous accepter certaines choses de nos vies comme si elles étaient normales. Elle doit nous encourager à nous approcher de toi au pied de la croix, à confesser nos péchés, à revenir vers toi dans l'amour, parce que tu es rempli d'amour pour nous. Seigneur, donne-nous de ne pas banaliser ce que tu as fait pour nous. Renouvelle en nous ce regard sur ce que tu as fait, sur la croix, sur le rachat, parce que tu nous as rachetés, sur ton œuvre à la croix. Tu ne nous as pas rachetés par de l'or ou des pierres précieuses, mais par ton sang précieux. Seigneur, ce matin, nous voulons nous mettre à tes pieds et peut-être te demander pardon pour certains échecs de nos vies, mais aussi ceux qui nous empêchent d'avancer, ceux qui nous accablent. Seigneur, libère-nous. Libère-nous de cette culpabilité dont le diable se sert pour nous empêcher d'avancer. Je te prie au nom de, à ton nom, Seigneur Jésus. Amen.